Maintenant au journal des Amériques et d'Haïti en compagnie d'Anne Verdaguer. Bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Au sommaire, on sera en ligne avec le Guatemala dans un instant où se sont tenues hier des élections générales et le premier tour de l'élection présidentielle. Dans un contexte de corruption politique et de violence, notre invitée Erika Guevara, docteur en sciences politiques et spécialiste de l'Amérique latine. On vous parlera également de cette panne géante en Argentine qui a touché 50 millions de personnes hier et dont on ne connaît toujours pas l'origine. Et puis de ces nouvelles manifestations en Haïti ce week-end où des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer à nouveau le départ du président Jovenel Moïse et la tenue d'un procès pétro-caribé du nom du scandale qui touche notamment le chef de l'État haïtien.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Direction donc le Guatemala où la candidate de centre-gauche Sandra Torres est donnée en tête du premier tour de l'élection présidentielle selon les premiers résultats portant sur 42% des bureaux de vote. L'ex-première dame du Guatemala recueille pour le moment un peu plus de 24% des suffrages. Notre invitée est Erika Guevara en direct du Guatemala. Bonjour Erika.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques au CERI, maître de conférences à Paris 8, spécialiste de l'Amérique latine. Première question, est-ce que ces premiers résultats sont attendus?
Allô?
Oui, Erika, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Est-ce que
oui,
les premiers résultats?
J'ai pas entendu.
Oui, est-ce que les premiers résultats qui donnent donc en tête Sandra Torres étaient attendus?
Ah, d'accord. Alors, les résultats étaient... Oui, les derniers sondages avaient tendance à montrer que c'était Sandra Torres qui était en tête. Néanmoins, les résultats sont quand même surprenants. Là, il y a déjà 87% des bureaux de vote qui ont été comptabilisés. Ce qui est surprenant, c'est surtout les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes places, en fait. Donc, sur le candidat Alejandro Yamatei, qui en deuxième obtient 14,31%. Ça aussi, les sondages le montraient, mais les troisième et quatrième partis sont intéressants parce qu'il y a le parti humaniste de Edmond Moulet et surtout en quatrième place, un parti qui est indigène et qui obtient 10,56%. Et ça, c'est très intéressant pour le deuxième tour parce que ça, c'était inattendu et les résultats, les sondages ne le montraient pas.
Le second tour voilà. Qui doit donc avoir lieu le 11 août prochain, il y avait 21 candidats du jamais vu hein, pour une élection au Guatemala. Comment qualifieriez-vous cette campagne qui a été marquée notamment par l'élimination de deux candidats très importants?
Oui, ça a été une élection très atypique, une campagne très atypique avec beaucoup d'incertitudes. Il y avait une nouvelle loi des partis politiques qui a créé plein d'incertitudes parce que les règles ont changé. Il y avait catégorie du vote nul aussi qui avait été créée, c'est-à-dire elle a été comptabilisée dans les votes et s'il obtenait la majorité, ça, on répétait l'élection. Donc ça a créé beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes. Ensuite, c'était une élection très judiciarisée, c'est-à-dire il y avait beaucoup de procès qui étaient faits contre les candidats et il y a 5 candidats qui ont été finalement retirés de la course. Donc, dont 2 des principales candidates qui étaient en tête il y a 3-4 semaines. Donc en fait, il y a 2 semaines, on ne savait pas encore quelle était la liste définitive des candidats. Donc ça a créé vraiment beaucoup de problèmes, c'est-à-dire pour les électeurs qui ne savaient pas vraiment quoi faire parce que la liste des candidats changeait tout le temps. Et puis la question c'était celle-là, c'était qu'est-ce qui allait se passer avec le vote orphelin, celui des gens qui avaient décidé de voter pour une de ces candidates ou de ces candidats qui n'ont pas pu se présenter et qui finalement s'est reporté sur les autres. Donc c'était assez intéressant à suivre, c'était assez très complexe en fait.
Ouais, et puis parmi les candidats, il y avait notamment cette ancienne juge anti-corruption qui a dû partir finalement du pays. Et puis autre symptôme de ce climat de violence politique, hein, le procureur du tribunal électoral a lui aussi quitté le pays. Comment on explique cela, Erika?
Oui, il y a eu beaucoup d'incidents, on va dire, qui ont émaillé la campagne. Il y a eu aussi le tribunal suprême des élections a été très affaibli, très critiqué pendant cette campagne. Je pense que si il y a cela, c'est-à-dire c'est une institution très solide, et pendant cette campagne, à cause de tous les changements de loi, il y a eu beaucoup de questionnements. Tribunal qui revenait en arrière sur ses décisions, etc. Donc, c'est lié aussi au climat de corruption, en fait. Ça, c'est le deuxième facteur qu'on peut évoquer. C'est-à-dire, On sort quand même en 2015, il y avait eu la destitution d'un ancien président pour des affaires de d'un président en cours, Otto Pérez Molina, pour des affaires de corruption. Et donc il y avait beaucoup d'attentes suite à ça, parce qu'on attendait beaucoup de réformes, et finalement les réformes attendues ne sont pas vraiment arrivées. Ce qui a créé cette volatilité, cette tension les électeurs, auprès des électeurs et du public. Et donc on peut, voilà, c'est les facteurs qu'on peut évoquer pour expliquer les tensions qu'on a pu avoir pendant cette élection.
Est-ce que vous diriez donc que les électeurs se sont rendus aux urnes dans un climat de perplexité générale et même sans enthousiasme ?
Tout à fait. Perplexité générale, ça c'est vraiment le mot. C'est-à-dire on entendait là pendant les derniers jours à quel point les électeurs étaient perplexes. Ensuite, il y a une baisse de la participation qui est assez importante, c'est-à-dire l'abstention elle est quand même de 45,91%. C'est beaucoup pour ce pays qui aime bien voter d'habitude. Et on sentait vraiment l'incertitude, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire les gens ne savaient pas ce qui allait se passer, c'était des élections très difficiles à prévoir, et donc les gens se sont rendus aux urnes quand même, mais sans conviction, un peu déçus, la corruption revient tout le temps comme priorité en fait pour les électeurs en ce moment.
Quels ont été, Erika Guevara, les autres enjeux de ce scrutin ? Il faut rappeler que la pauvreté, hein, notamment, est très présente au Guatemala. 59% des Guatémaltèques vivent dans la pauvreté. Est-ce que ça a été un enjeu de ces élections ?
Oui, c'est un des enjeux, même si la campagne, justement, comme elle a été courte aussi, n'a pas, les différents candidats n'ont pas beaucoup traité le sujet. Donc ça, c'est un problème. Ils n'ont pas non plus parlé des carences alimentaires d'une grande partie de la population. Effectivement, 60% de la population est pauvre et c'est un des enjeux et c'est d'ailleurs ce que semblent montrer les résultats parce que San Lazoge, son programme est c'est de la redistribution sociale, même si bon, c'est pas un programme de gauche, mais c'est quand même un programme où les questions sociales sont au cœur de ce qu'elle propose. Donc, le fait que les départements les plus pauvres aient voté pour elle, parce que c'est vraiment les départements de l'intérieur qui ont voté pour elle, montre que la pauvreté est un enjeu des élections, parce que justement, c'est dans les zones les plus pauvres qu'on voit le plus d'électeurs de San Lazoge. On voit une opposition entre les zones rurales et les zones urbaines. Les zones urbaines, la ville de Guatemala, a voté pour l'autre candidat, pour Alejandro Yamatei.
Est-ce que vous diriez aussi que la surprise dont vous parliez tout à l'heure de d'autres partis comme le parti indigène, c'est aussi une conséquence de cette perplexité un petit peu des électeurs?
Oui, sûrement. C'est aussi sûrement le vote orphelin dont je vous parlais qui a dû se reporter sur ce parti-là. C'est la question de la représentation des indigènes, même si finalement ça n'a pas été évoqué du tout pendant les élections. Mais oui, c'est là il y a un signal vers les politiques sociales en fait, c'est-à-dire une demande de politique sociale, même si le spectre politique est quand même très à droite. Hein. Quand on voit les candidats, c'est pas du tout les mêmes catégories de droite-gauche qu'en France. Et San Lazoge, c'est quand même du centre-centre, on va dire. Donc, c'est les enjeux. Les autres enjeux, c'est aussi, bon, j'ai pas mal répété la corruption, mais aussi l'insécurité. Donc, ça, c'est les enjeux qui vont être au cœur de cette deuxième campagne du deuxième tour qui va commencer bientôt.
Merci beaucoup, oui. Erika Guevara. Je rappelle que vous étiez en direct du Guatemala et que vous êtes docteur en sciences politiques au CERI.
RFI, les voix du monde.
On va revenir à présent sur cet incident en Argentine avec un retour progressif à la normale après une méga panne d'électricité hier dimanche qui a affecté la quasi-totalité du territoire ainsi que l'Uruguay, une panne d'origine encore inconnue qui a touché près de 50 millions de personnes à Buenos Aires. Le reportage de notre correspondant Jean-Louis Boucher.
La panne a surpris les Argentins à leur réveil. Fabiana, une enseignante de 50 ans, s'en remet à peine.
Quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'il n'y avait pas de courant et c'était terrible. Heureusement que vers 3 heures de l'après-midi, la lumière est revenue. Mais bon, toute notre routine quotidienne en a été affectée. Ce n'est que bien plus tard que j'ai su qu'il s'agissait d'une panne générale. Nous pensions que c'était une coupure importante, mais pas aussi grande.
Agustin, jeune employé d'un kiosque à journaux, a vu le courant se couper dès l'arrivée à son poste de travail.
Je suis arrivé vers 7h du matin et à 7h05, nous étions dans le noir. Nous avons essayé de maintenir le calme jusqu'au retour à la normale. Un peu avant midi, nous avons vu qu'il y avait de la lumière de l'autre côté de l'avenue du 9 juillet. Ici, le courant a été rétabli quelques minutes plus tard.
Alors que près de 90% des usagers avaient été reconnectés ce dimanche soir, les Argentins attendent des explications sur cette panne historique qui affectait l'ensemble du territoire, ainsi que l'Uruguay et des régions d'autres pays voisins comme le Paraguay, le Chili et le Brésil. Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
Revue de presse des Amériques à présent. Bonjour Marie Normand.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On va revenir avec vous sur cette panne d'électricité qui fait les gros titres en Argentine aujourd'hui.
Oui, des rues, des restaurants dans le noir, des feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Voilà quelques photos en une aujourd'hui avec des schémas et des graphiques dans La Nation par exemple pour tenter de comprendre cette panne historique. Enquête en cours, des mots qui se répètent car pour l'instant, Jean-Louis Buchet l'a dit, les causes de cette panne géante ne sont pas claires. L'éditorialiste de Clarine raconte heure par heure sa journée de dimanche. Bon alors c'était dimanche justement, remarque-t-il, et ce lundi est férié en Argentine, donc finalement c'était le moment le moins dommageable pour une panne de courant géante. Mais que se serait-il passé, s'interroge-t-il, si cette coupure avait eu lieu un mardi ou un mercredi? Eh bien, des gens, probablement des centaines, se seraient retrouvés piégés dans des ascenseurs, dans des immeubles sans génératrice. Cette civilisation, conclut-il, ne peut exister sans électricité.
Une panne d'électricité qui a touché aussi l'Uruguay, Marie.
Oui, parce que comme l'explique la Repubblica, le réseau électrique de l'Uruguay est interconnecté avec le système argentin. Il dépend du barrage binational de Salto Grande, situé à quelques 450 km au nord de Buenos Aires et 500 km au nord de Montevideo. Le journal uruguayen précise que le système de protection du réseau uruguayen a réagi automatiquement après la défaillance de son voisin. Résultat, interruption du service dans quasiment tout le pays. Devançant les critiques, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie a défendu ce système interconnecté dans El Observador, un autre journal uruguayen. Il estime que son pays en est bénéficiaire 99,8% du temps. Quand un problème surgit, explique-t-il, on arrête de produire et l'Argentine peut aider en prenant le relais. Un système indispensable, selon lui, pour maintenir la stabilité électrique de toute la région. Notez justement que le Brésil, le Chili et le Paraguay ont aussi, en partie, été touchés.
C'était dimanche et de nombreux Argentins étaient appelés aux urnes aussi pour élire leur gouvernant dans quatre provinces, Marie.
Et donc les Argentins ont dû parfois utiliser des bougies ou la lumière de leur téléphone portable pour voter. Les bureaux ont dû ouvrir plus tard pour profiter de la lumière naturelle, rapporte Paris Nadossé, sauf dans la province de Terre de Feu qui n'a pas été affectée car elle fonctionne de manière indépendante du réseau argentin. Paris Nadossé titre « La panne de Macri, nom du président ». Pourquoi ? Eh bien, parce que la coalition gouvernementale Cambiemos a perdu en Terre de Feu, justement. À San Luis également, à Formosa et à Santa Fe, elle a accumulé 13 défaites en 2019. Omar Perotti du parti Juntos est devenu le premier candidat péroniste de l'opposition à être élu gouverneur de Santa Fe, souligne La Nación, après 12 ans de gestion socialiste renchérie la capitale.
Direction Haïti à présent, où des milliers de personnes ont manifesté hier.
Notamment dans la ville des Cayes pour réclamer le départ du président Jovenel Moïse et la tenue du procès Petrocaribe, du nom de ce scandale de corruption. Les manifestants ont chanté les funérailles symboliques du président Jovenel Moïse, peut-on lire sur le site d'Alter Press. Manifestation contre le chef de l'État également au Gonaïve ainsi qu'à Port-au-Prince où le climat de tension et le caractère imprévisible des événements portent plusieurs écoles de la capitale à fermer leurs portes sans avoir bouclé l'année scolaire. Pour certains de ces établissements, les élèves n'ont pas eu le temps de subir les examens du troisième trimestre.
Et puis un journaliste a été blessé par des tirs de balles en caoutchouc en Haïti.
Oui, il s'appelle Reynald Petitfrère, il travaille à Radio Signal FM et il a reçu 3 balles en caoutchouc, dont une au niveau du cou, rapporte Juno 7. Le journaliste soutient qu'il dialoguait avec des confrères lorsqu'un policier du CIMO, le corps d'intervention et de maintien de l'ordre lui a tiré dessus. Selon Juno 7, toujours, c'est le deuxième journaliste blessé par balle en caoutchouc dans l'exercice de sa profession en moins de 10 jours. Enfin, Alter Press, toujours en Haïti, note qu'hier s'est tenue une marche à Port-au-Prince pour réclamer justice pour le journaliste Rospite Pétion. Le journaliste de Radio Sans Fin est tombé sous les balles de bandits, rappelle ce média haïtien. C'était le lundi 10 juin à Martissan, un secteur sud de Port-au-Prince.
Au Paraguay, des émeutes dans une prison font 9 morts.
Oui, 9 prisonniers morts au cours d'affrontements dans la prison de San Pedro. 5 ont été décapités, 3 brûlés, précise Ultima Hora. Affrontement entre un gang paraguayen, Rotella, et le PCC, un groupe criminel brésilien qui a commencé à s'établir dans la région frontalière vers 2010, précise le journal, pour chercher à contrôler le trafic de drogue et le trafic d'armes.
Aux États-Unis, Mike Pompeo assure le service après-vente. Il tente de convaincre les alliés des États-Unis de l'implication de l'Iran dans l'attaque de 2 pétroliers en mer d'Oman. C'était jeudi dernier.
Oui, c'est ce que raconte le Washington Post. L'administration Trump avait diffusé une vidéo, on s'en souvient, pour appuyer ses dires, mais le Japon et l'Allemagne demandent plus de preuves. Elles arrivent, promet dimanche sur CBS et Fox News le secrétaire d'État américain, qui souligne avoir passé une grande partie du week-end à parler à ses homologues dans les capitales étrangères. Pour le Washington Post, en tout cas, l'administration Trump fait face à un problème de crédibilité face à des alliés qui ne veulent plus prendre ces informations au pied de la lettre. Ce qui coince, selon le journal, c'est le comportement de la Maison-Blanche qui a publiquement sapé ou ignoré les analyses de ses services de renseignement dans le passé.
Merci Marie-Normand pour cette revue de presse des Amériques. L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première Caraïbe présenté par Odane Agiali. Bonjour Odane.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une en Guyane, les membres du collectif Hors de Question ont enterré le projet Montagne d'Or.
Obsèques symboliques de ce projet de mine d'or à ciel ouvert sur le territoire de Saint-Laurent-du-Maroni dans l'ouest guyanais. Un enterrement organisé ce week-end à Cayenne est l'aboutissement de multiples actions pour faire plier le gouvernement français. La Montagne d'Or, un projet qualifié dernièrement par le Premier ministre d'incompatible avec les exigences de protection de l'environnement. Mais malgré ces déclarations, les opposants à la mine industrielle restent vigilants. Nickerson Perdius.
Les obsèques symboliques de la compagnie Montagne d'Or, un nouvel épisode de ce projet de mine à ciel ouvert guyanais qui aura au final provoqué débat et division sur le plan local comme national. Chez les anti-Montagne d'Or, ce soir de fête, deux analyses de l'abandon du projet par le gouvernement s'opposaient. Pour le collectif Hors de Question, c'est une victoire majeure, mais vigilance car elle n'est pas enterrée pour autant.
Nous voulons que l'État puisse dire que la Montagne d'Or est définitivement arrêtée. Nous savons pertinemment que c'est impossible.
En revanche, pour le réseau Nemo, autre opposant, il s'agit de l'épilogue de la fin d'un feuilleton à rebondissement. Harry Hautebourg, l'un des animateurs, ancien membre du collectif Hors de Question.
Contrairement à d'autres personnes qui affirment qu'on les a chassés par la porte, qu'ils peuvent revenir par la fenêtre, pour moi, c'est la fin du projet Montagne d'Or et c'est une grande victoire.
Être opposant, c'est bien, mais proposer, c'est mieux. Concernant ce sujet, le collectif Hors de Question fait valoir le potentiel emploi vert en Guyane, l'exploitation aurifère en Guyane, un débat de société loin d'être terminé à suivre.
Le reportage Guyane La Première de Nickerson Perdius. Ils sont penchés en ce moment sur leur copie. Les lycéens antillais et guyanais planchent sur la première épreuve du baccalauréat. Des surveillants supplémentaires ont été convoqués pour encadrer les épreuves. Conséquence d'un appel à la grève lancé par une intersyndicale nationale, les professeurs protestent contre la réforme du bac et le manque de moyens dans l'éducation nationale. Et puis on termine avec cet hommage à une grande cinéaste, la martiniquaise Eusanne Palsy, décorée au Festival international du film caribéen à Los Angeles. La réalisatrice, entre autres, du film La rue Cazenègre, particulièrement touchée par cette récompense.
J'ai eu dans ma carrière pas mal d'hommages, mais il y a des hommages qui sont beaucoup plus chers à mon cœur que d'autres. Et cet hommage du Caribbean International Film Festival ici à Los Angeles, ça fait partie de ces hommages qui me sont très chers, parce que c'est se sentir honoré par les siens, puisque c'est la Caraïbe, c'est aux États-Unis. Pour les artistes que nous sommes, c'est très très important d'être reconnu par les siens, puisqu'on sait que c'est tout un pays, c'est votre pays qui vous reconnaît, le travail que vous avez fait et aussi l'hommage que vous lui faites en créant, et ce travail étant honoré, on honore en même temps votre pays.
La réalisatrice Suzanne Pansy avec L'Oréal Virasami.